Et là, dans la suite...
Ouais, on va peut-être continuer, on va peut-être changer notre mode de fonctionnement pour pas... Enfin, ce que je vais peut-être proposer, ouais. Suite à l'intervention. Donc Stéphane, on peut le remercier parce qu'il nous présente quand même en avant-première ce que sera la 4e édition, hein, c'est ça. Colorisé et nourri des dernières trouvailles, hein, qui ont été exposées ici.
Ça arrêtera peut-être dans 20 ans, mais bon...
Oui, voilà, c'est ça, on n'a pas encore de date fixe. On m'avait demandé de travailler sur les survivances du groutchoutisme. Alors je vais peut-être un peu réduire pour qu'on puisse ensuite débattre. La légende de Groutchout, donc Groutchout, après ce qu'on a pu comprendre, il devient un héros populaire à partir de 1906, hein, avec la catastrophe de Courrières et la grève insurrectionnelle qui suit. Et donc en fait, c'est là où il gagne un peu ses galons de héros populaires. C'est là où il rentre sur le devant de la scène. 1906. Groutchoutisme. Alors à l'époque, on parle déjà de groutchoutard, de groutchoutiste, de groutchoutiste. Donc ça renvoie à groutchoutisme. Groutchoutisme, il n'y a pas forcément une doctrine de groutchou. Groutchoutisme n'a pas été un théoricien, il n'a pas élaboré une doctrine. On reviendra un peu sur la doctrine syndicaliste révolutionnaire, donc l'idée de grève générale, l'autonomie des syndicats, qu'on a évoqué à travers la charte d'Amiens. Groutchoutisme, va-t-il survivre à Groutchout? Groutchoutisme a traversé quoi? C'est d'abord un comportement, on l'a évoqué avec Cadet, c'est un comportement, c'est-à-dire une espèce de combativité, d'explosivité, et c'est aussi un style, une gouaille qui va exprimer notamment à travers la presse, hein, parce qu'il a été responsable du syndicat des mineurs, mais il n'a pas beaucoup travaillé à la mine, Groutchout. Il était rémunéré par le syndicat comme rédacteur des différents journaux pour lesquels il a collaboré. Donc, Groutchoutisme, l'idée de cette intervention sur le groutchoutisme a-t-il survécu à Groutchout, c'est une conversation avec André Desmarais, qui était un dirigeant du Parti communiste, et qui me dit, dans l'entre-deux-guerres, on s'invective encore, elle est groutchoutiste, contre Basilico. Dans l'entre-deux-guerres, pour lui, c'était encore une réalité. Donc l'idée de savoir comment est-ce que le groutchoutisme a survécu. Et finalement, plus un travail journalistique qu'un travail d'investigation, un travail d'historien, je me suis rendu compte que le groutchoutisme, il n'a pas survécu à Groutchout. Le groutchoutisme, en tant que référence à Groutchout, dans les actions syndicales de l'entre-deux-guerres, aucun, là c'est Pierre Outhéry qui est un historien qui a écumé un peu les archives de police, aucun syndicat, alors la CGT réformiste certainement pas, la CGT unitaire non plus, là je parle dans le cadre du bassin minier, hein, du Nord-Pas-de-Calais, on ne se revendique pas de Groutchout, on ne se revendique pas du groutchoutisme, donc dans les tracts ça n'apparaît pas, dans l'entre-deux-guerres. Pour quelle raison? Peut-être l'absence physique de Groutchout. Groutchout sera, en 1921, il sera présent, il essaiera de se faire embaucher à Valenciennes, il sera repéré par la police le 1er mai 1921, il participera au congrès de Lille de la CGT, mais il y a une absence physique de Groutchout. Il y a aussi les conséquences de la guerre. La guerre a cassé non seulement les corons, les cités minières. Enfin, il faut savoir que Lens va être complètement détruit. Les cités minières vont être reconstruites en 1922-1923. La guerre donc casse un peu la dynamique d'avant 14, l'absence de Groutchout, la révolution de 1917, peut-être un idéal chasse-lotte, au moins pendant un moment. L'idéal bolchevique va supplanter quelque part l'idéal anarcho-syndicaliste, qui explique aussi l'effacement de Groutchout. Et donc dans l'entre-deux-guerres, finalement, malgré que certains, ça ne veut pas dire que certains ne vont pas se revendiquer de l'action directe. Moi, j'ai travaillé par exemple sur les grèves de Le Forêt ou les mineurs de Polonais pour protester contre les expulsions massives, parce que ce sont des mineurs polonais, donc dans le cadre de la crise économique, si on fait grève, on est mis dehors. Ils décident en août 1934 de faire une grève au fond d'un puits de mine. C'est la première fois dans l'histoire des mines de France, qui a une grève au fond d'un puits. Donc avec des rumeurs de prise d'otages, etc. Ils auraient pris en otage des jeunes galibots français, des porions, des ingénieurs, etc. Et finalement, donc ça c'est la méthode Groutchout, ça c'est la méthode d'action directe. Et finalement, quand vous regardez les tracts de l'époque, les tracts syndicaux de l'époque, Groutchout, on n'en parle pas. Il y en a un qui a été le permanent de la CGT unitaire, qui s'appelait Thomas Olszanski, qui était un Polonais, qui a été naturalisé en 1921, qui sera dénaturalisé. Alors, il a été naturalisé parce qu'il a servi la France pendant la Première Guerre mondiale. Ensuite, il rentre dans les rangs de la CGT unitaire. Il est dénaturalisé en 1932, donc bien avant ce que le gouvernement veut faire aujourd'hui. Et là, encore à l'époque, c'était une mesure assez exceptionnelle. Et en 1934, il est expulsé vers la Pologne. Et Brouchou, d'après des dirigeants du parti, enfin, pas Brouchou, mais Thomas Olszanski, d'après des dirigeants du Parti communiste, se réclamait autant de Benoît Brouchou que de Joseph Staline. Donc ça veut dire toute l'ambiguïté de la construction du Parti communiste, qui était un peu une auberge espagnole jusqu'à sa bolchevisation dans les années 24, et également de la CGT unitaire. Mais Brouchou, on ne trouve plus mention de Brouchou dans les actes de grève, dans les protestations, etc. Encore moins après la Seconde Guerre mondiale, hein, que ce soit les grèves de 1947, les fameuses grèves de 1948, on ne se revendique pas de Brouchou ni du syndicalisme d'action directe d'avant 1914. En 68, il y a peut-être un retour des idées anarchistes sur le plan national, mais ils épargnent, enfin, ce retour épargne, entre guillemets, le bassin minier. Les seuls peut-être qui vont se retrouver un peu dans les méthodes d'action directe, c'est la gauche prolétarienne quelque part sur une courte période. Donc la gauche prolétarienne, un mouvement d'inspiration maoïste entre 1970 et 1974. Par exemple, lorsqu'on attaque les sièges des houillères à coups de cocktail Molotov en 1970 suite à la catastrophe de Fouquières, là encore on a des méthodes à la Brouchou, des méthodes d'action directe, de confrontation directe avec le patronat et l'exploiteur. Mais il faut attendre la sortie de la bande dessinée de Stéphane et de Phil Cazoar en 1979 pour la première édition, pour que Brouchou revienne au bout du jour. C'est relayé ensuite par des syndicats comme la CNT qui se confortent au niveau régional à partir des années... En 1993, avec la sortie du film de Berry, Germinal, la CNT fait une grande promotion de la... Parce que Brouchou, évidemment, voyage germinal, on parle de la courrière et tout ça, donc la CNT fait une promotion de Benoît Brouchou. On aura le 90e anniversaire de la catastrophe de courrière, donc en 1996, où lorsque l'Alliance Rouge et Noire, qui est animée par une personne qui s'appelle Joseph Tournel, qui était un militant de la gauche prolétarienne, un militant maoïste de la gauche prolétarienne, lorsqu'il inaugure un chevalement potence pour marquer que lorsque les mineurs allaient à la mine, ils allaient à la mort, ils n'y allaient pas de gaieté de cœur, et il y a l'effigie de Brouchou trône sur le chevalement potence en bois qui a été construit à l'époque pour le 90e anniversaire. Donc Brouchou revient. Alors ensuite, je crois qu'il y a un groupe de rock, hein, qui a pris le nom de Brouchou. Stéphane me disait que le congrès des forces ouvrières, alors je ne sais pas à quelle époque.
Oui, c'était après, dans les années 80.
Oui, dans les années 80, forces ouvrières aussi. Alors là, c'est aussi peut-être dans l'idée d'autonomie de la charte d'Amiens. Enfin, il faudrait voir leur motivation, mais se revendiquer aussi de Benoît Brouchou. Enfin, je pense pas que Benoît Brouchou.
Pour rappeler un peu ce que j'ai fait là, c'est pour rappeler les circonstances de la création de la charte d'Amiens.
Voilà. Et donc, en conclusion, on peut dire que Benoît Brouchou est un peu mort dès 1914, quoi. Le fait qu'il ne soit plus dans le bassin minier, le fait qu'il n'apprenne plus l'action syndicale, et qu'il est sorti un peu de la tombe, il est un peu ressuscité par la bande dessinée. Et aujourd'hui, toute la question est de savoir en quoi les méthodes, enfin nous, en tant que syndicaliste CGT, en quoi les méthodes de Benoît Brouchou peuvent nous aider à relever les défis qui sont posés aux syndicalistes aujourd'hui. Parce que, par exemple, dans le cadre, nous, il y a une formidable dynamique qui s'est créée dans le cadre des unions locales CGT du bassin minier lors du mouvement d'opposition à la réforme des retraites. En 2014, on a encore une dynamique intersyndicale importante sur le bassin minier. Mais on se rend compte qu'à un moment, les copains sont confrontés aux problèmes, se posent les problèmes du parlementarisme, du rapport aux élus, du rapport à la police, donc d'un tas de questions que posaient déjà la charte d'Amiens et Benoît Brouchou. C'est pour ça aussi qu'on voulait créer un peu ce débat, pour voir en quoi Brouchou et l'anarcho-syndicalisme, on reviendra un peu sur ces concepts, pouvaient nous aider à mieux appréhender les défis qui sont les nôtres aujourd'hui en tant que syndicalisme. Voilà.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions particulières?
Ce qu'on peut dire, c'est que Brouchou a tout le temps été adhérent à la CGT.
Ah ouais,
il a tout le temps été adhérent à la CGT.
Donc aujourd'hui,
en tant que CGTiste, on a tous des reconnus. on ne peut que se revendiquer de Brouchetou avec tous les gens qui le critiquaient, on peut être d'accord. Il était à la CGT, il n'était pas ailleurs. En tant que CGT, on doit respecter Brouchetou, on doit respecter d'autres grands militants. Moi, j'ai un grand respect pour le camarade Ambroise Croizat. C'est une référence, Ambroise Croizat, pour nous. Il a créé la Sécu, c'est un communé, c'est Brouchetou. Et je pense qu'il faut prendre tout ce qui a du positif. Aussi, c'est la façon de faire, je pense qu'il était en avance sur son siècle, au niveau du féminisme. Moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'était au niveau des femmes, sa liberté sexuelle, il était en avance depuis un siècle. Non, mais c'est bon. Mais j'ai plus de voix, je peux pas voir. Donc, je pense qu'il était en avance d'un siècle sur son temps, aussi sur sa façon de vivre, au niveau, par rapport aux femmes en plus. Je pense qu'il respectait les femmes, et c'est très important, je pense qu'on doit. Alors moi, personnellement, j'ai connu Brouchetou il y a quelques années et je me reconnais dans lui, dans ma façon de faire. Et moi, mes camarades ici aussi, on est CGT, on a milité depuis 15-20 ans. Et on a fait un peu l'action directe comme Brouchetou l'a fait dans ma boîte ou ailleurs, même Michel. Michel, ici présent, il est une victime du patronat. En voulant créer un syndicat CGT, il s'est fait virer. On a combattu tout le temps. Et encore récemment, le camarade Damien Chabet, qui est au Parti communiste français, a été licencié parce qu'il a créé un syndicat CGT dans sa boîte. On croit que ça n'arrive plus aujourd'hui, mais ça existe encore. On doit être tous unis. Et moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il était pour l'unité, beaucoup. Il a essayé de garder l'unité avec toute l'histoire révolutionnaire, avec la révolution russe, c'est pas facile. Et je comprends aussi que certains camarades de la CGT, communistes, staliniens, qui supportent pas beaucoup. Je comprends mieux maintenant. Ouais, pourquoi certains ont insulté Brouchetou, et c'est dommage, parce qu'on peut en discuter sans s'invectiver, sans s'insulter. Et ce qui est important, c'est le résultat pour les travailleurs. Il faut se battre pour défendre les travailleurs, c'est bon. Il faut prendre tout ce qui est bon partout, et pour avancer. Donc, malheureusement, moi, j'ai essayé d'inviter des camarades à venir aujourd'hui, ils sont pas venus, pour en discuter sereinement. Mais après, on ne peut pas en faire mieux.
Et si vous le permettez, je vais essayer de vous donner une vision historique un peu plus large, de façon à mon avis, comprendre avec précision, avec beaucoup plus de précision, ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui. Bon. Alors, pour ça, je crois qu'il faut remonter à la façon dont les luttes se sont passées au XIXe siècle en France, et à faire un peu le rapport avec ce qui s'est passé en Allemagne et en Angleterre, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, en France, il faut savoir que à la fin de la Révolution française, à la fin de la phase aiguë de la Révolution de 1789, il y a une loi qui a été votée, qui a été imposée par la bourgeoisie, qui s'appelle la loi Le Chapelier, et qui interdisait que les employeurs et les ouvriers et les travailleurs se mettent en association. Les associations étaient interdites. Alors, bien entendu, immédiatement, les patrons ont transgressé cette loi et elle a été appliquée de façon rigoureuse contre les travailleurs, contre les ouvriers en particulier, ce qui fait que tout au cours du XIXe siècle, les luttes se manifestaient par des révoltes, par des insurrections, etc. Il y a eu des tas, il y en a qui sont connus, la commune de Paris, il y a eu des communes ailleurs qu'à Paris, il y en a eu à Narbonne, il y en a eu à Marseille. Il y a eu de très nombreuses, chaque fois c'était l'insurrection. Il y a eu des insurrections à Paris, la révolution de 30, la révolution de 48. Et ça s'est terminé en 1871 par la commune de Paris. Bon, là, la bourgeoisie a eu très peur. Elle a réprimé très très fort. Il y a eu des centaines, des milliers de morts et de déportés. Et à ce moment-là, il y a eu un grand tournant dans la politique de la bourgeoisie. C'est-à-dire qu'à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, ils ont compris ce que j'appelle les vainqueurs de la commune, c'est-à-dire la classe de la bourgeoisie qui était au pouvoir à cette époque-là et qui a écrasé la commune dans le sang, a compris qu'il fallait changer le fusil d'épaule. Et pour changer le fusil d'épaule, d'abord, la première mesure qu'ils ont prise, c'est qu'ils ont légalisé les syndicats, c'est-à-dire que quand même, au XIXe siècle, il y avait des formes d'organisation de la classe ouvrière qui s'étaient faites, sous différentes formes, les chambres syndicales, etc. Et date, on s'en fout, c'est à la fin du XIXe siècle, les syndicats ont été légalisés. Et en même temps, il y a toute une série de mesures qui ont été prises. bon, et qui nous marque encore aujourd'hui. La laïcité, l'école laïque, bon, il ne faut quand même pas croire que si la bourgeoisie a instauré l'école laïque, c'était pour faire plaisir au peuple. Hein. C'était pour faire un cadre dans lequel on allait faire des enfants de la classe ouvrière, de bons ouvriers, obéissants, etc., et qui même seraient, pourraient partir à la guerre sans rien dire, la fleur au fusil, ce qui s'est passé en 1914. Bon, donc, il y a toute une série de mesures qui ont été prises au tournant du siècle, qui avait pour but finalement, c'était l'aspect le plus important, il y a des mesures qui ont été prises sur la colonisation. La colonisation a été beaucoup plus développée à ce moment-là, etc., parce qu'il fallait des ressources, mais bon, je ne vais pas sur les détails. Bon. Et la mesure essentielle était qu'il y ait une parfaite collaboration entre les travailleurs, entre la classe ouvrière et la bourgeoisie, quoi, les propriétaires d'entreprises. Alors, ils se sont un peu inspirés de l'exemple allemand et français, qui ont été exposés. C'est-à-dire que le dirigeant allemand Bismarck avait fait ça peu après l'unité allemande et avait légalisé toute une série de choses. Il avait organisé, ça a bien marché en Allemagne. En Angleterre, ça s'était passé plus tôt, puisque en Angleterre, la révolution industrielle était bien antérieure à celle de la France. Et donc la bourgeoisie en France c'est a voulu mettre en place essentiellement une collaboration entre le travail et le capital, pour reprendre une expression commune. Bon. Donc, c'est posé la question, voie révolutionnaire ou voie réformiste. Bon, alors forcément, la bourgeoisie, elle a été en mesure de créer un certain nombre d'organisations, de syndicats réformistes, de tas de trucs comme ça. Et l'essentiel de la bagarre s'est fait au niveau des chambres syndicales, etc., de ceux qui allaient devenir la Confédération Générale du Travail, qui allaient devenir la CGT. Et disons que tout le XXe siècle va être traversé par ça. Bon. Alors, il y a un événement très important qui s'est produit entre-temps, c'est la guerre et puis la Révolution d'Octobre. Et moi, je verrai l'histoire de la Révolution d'Octobre, si vous me permettez, de la façon suivante. Le marxisme, ce n'est pas une doctrine. Le léninisme, ce n'est pas non plus une doctrine. Si on regarde la chose objectivement, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé d'une façon différente. C'est-à-dire que les grands dirigeants révolutionnaires que furent Marx, que furent Lénine, appliquer un principe extrêmement simple, qui est un principe qu'on doit retenir. C'est faire chaque fois l'analyse concrète d'une situation concrète et en tirer les règles générales, les leçons, etc. Alors ce qui s'est passé, c'est que les gens qui sont devenus communistes après la révolution d'octobre, ils n'ont pas retenu la méthode. Ils ont retenu le résultat. Donc, ils ont après appliqué une doctrine qu'on a appelé marxisme-léninisme. Et ils sont entrés, si j'ose dire, dans une façon de travailler avec œillères. C'est-à-dire, Lénine a réussi, on va regarder pourquoi il a réussi. Bon. Et on va essayer de refaire la même chose que lui. Bon. Et tous ceux qui ont voulu faire ça se sont plantés. Bon. Ceux qui ont un peu réussi, en Chine par exemple, ils ont subi une voie tout à fait différente. Bon. Je laisse ça de côté pour bien dire que ce qui est capital, c'est bien de partir de la réalité. Et c'est en ça, à mon avis, que, bon, quand on entend parler de la vie de Brouchou, on se rend compte que c'est quelqu'un qui est toujours resté lié avec la réalité, qui est toujours parti de la réalité, etc. Et ça, c'est extrêmement important. Bon. Et si on veut reparler de la façon dont les syndicalistes auxquels on s'est opposé, auxquels faisait allusion Jacques tout à l'heure, auxquels on s'est opposé, assez violemment par moment, ce sont des syndicalistes qui ont des idées qu'on leur a foutues dans la tête, ça se passe comme ça et comme ça, on applique ça, etc. Et on ne cherche pas à aller voir ce que pensent les gens, comment ça se passe, etc., ce qu'un syndicaliste devait faire. Bon. Donc, de ce point de vue-là, il y a une leçon extraordinaire à tirer de Brouchou pour tout le monde, hein, c'est vraiment très important, et pour construire ça. Alors, je voudrais terminer en parlant d'un historien qu'il faut lire, si vous avez l'occasion, qui s'appelle Stéphane Sirot, il a fait des, il est venu ici d'ailleurs une fois, je crois, et il a fait des, travaux tout à fait importants sur l'histoire du syndicalisme. Et Stéphane Messiro a expliqué que, au fond, nous sommes en train de vivre aujourd'hui, enfin disons avec la fin des 30 Glorieuses, quoi, depuis le milieu des années 70, nous vivons le rêve de la bourgeoisie, c'est-à-dire que le syndicalisme est devenu un syndicalisme d'accompagnement, un syndicalisme de collaboration de classe, et que la CGT, au niveau de la Confédération et de la plupart des fédérations, est un syndicalisme d'accompagnement, un syndicalisme de collaboration de classe. Il siège dans tous les troupes, dans tous les organismes mis en place par l'État pour gérer les affaires, etc. Ils vont discuter sans rien dire à la classe ouvrière ce qui doit être fait, etc. etc. Donc je conclurai là-dessus en disant que le problème essentiel qu'on a aujourd'hui, c'est de repartir de la base et de repartir des entreprises, des quartiers, etc., de repartir de la base et de reconstruire quelque chose contre ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire le syndicalisme d'accompagnement. Et ce syndicalisme, c'est le syndicalisme dont vous, auquel rêvait la bourgeoisie depuis, disons, le tournant entre le 19e et le 20e siècle.
Je voulais revenir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, Brutu, il est dans l'actualité. Là, en plus, on est sur Brutu, culture populaire, culture ouvrière et tout ça. Et si on est dans l'actualité, il se passe quelque chose en ce moment, personne ne bouge. Et on parle de la alors, culture ouvrière, mais il y a le logement ouvrier qui, là, dans pas longtemps, il va être vendu là, à des bourgeois pour, en hôtel. En face du Louvre, je suis tombé ça l'autre coup, un pote qui me parle de ça, mais je me dis, ouais, c'est quoi, tu te payes ton Koh-Lanta, quoi. Tu vas te passer ton week-end dans un coron et tout. Et personne ne bouge. Tu vas aller payer maintenant 70 balles ta nuit, ça se trouve, pour aller dormir au feu à charbon avec une écharpe de lance, une bouteille de Genève et une lampe de mineur à côté de toi. Quoi. Et qu'est-ce qu'on fait? Moi, cette semaine, j'ai réfléchi à savoir si la conférence. Bon, je l'ai merdé tout à l'heure, désolé, je suis un peu paniqué. Mais je voulais carrément même pas la faire. Je voulais juste dire, voilà. Mais je voulais même pas la faire. Je voulais même pas faire la conférence cette semaine et juste dire. Ouais, c'est bien, on va parler d'un mec, enfin voilà, c'est 70 ans qui est mort, au pire, si vous voulez des renseignements, maintenant, il y a Google, il y a Internet, il y a une brochure, enfin, je fais un petit truc, une petite brochure et tout. Là, aujourd'hui, il y a ça, concrètement, qui se passe aujourd'hui, là, dans le bassin minier, en face du Louvre, ils virent des veuves ou des couples de personnes âgées, voilà, qui vivent dans les corons, pour faire quoi? Pour faire des hôtels, style, viens dormir dans ton coupé, viens dormir dans un coron, vois ce que ça fait. Et en plus, tu vas payer, tu vas raquer ça à 60 ou 100 balles. Quatre étoiles, mais il vient l'habitat minier.
Alors, ça, mais ça va
comment? Ouais, enfin, ouais, voilà, zoo. Quand est-ce qu'on nous fout dans les cas? Quand est-ce qu'on va foutre les gens dans les cas?
C'est au moins 200
euros. Ouais. Après, moi, j'habite loin, j'ai un reproche à faire maintenant un peu sur les gens.
J'habite à côté.
Bah ouais, enfin voilà, après ça fait la rage en fer, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne qui bouge. Tout le monde a regardé le truc, ça fait. Ah, ça fait pleurer quand on regarde la vie, quand on regarde les petites vieilles.
C'est plus qu'un petit matière.
Moi, perso, ça fait 10 jours qu'on m'a alerté, à voir, ça fait plus longtemps que ça.
Parce que moi, il y a 2 jours, j'ai
ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Et savoir, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse vendre notre patrimoine, enfin, notre patrimoine, entre guillemets, ouvrier, machin, en hôtel que transformer nos. Ben voilà, je sais pas s'il y a des gens vécu en coron, mais ben, coron, un truc de 4 étoiles.
C'est très bien, c'est
d'autant plus se mobiliser que parmi les habitants, il y en a qui refusent.
Ben, c'est ça surtout.
Et je me dis. Effectivement,
moi, je sais qu'il y a. Et surtout que c'est un truc qu'on peut faire bouger énormément de gens là-dessus.
Mais du coup, est-ce qu'il y a des gens là ce soir qui sont prêts à faire des choses aussi? Enfin voilà, qui sont.
Moi, je voulais saboter la soirée. Déjà. On m'a dit non, mais je voulais dire, on parle pas de Brutu, on s'en fout, on parle de ce qui se passe là.
Bah, déjà, c'est bien. Il y a des gens qui peuvent habiter à côté, qui peuvent faire des choses, et qu'on peut faire un truc à collectif. Et on peut balancer
une date. Il y a des trucs à faire, je pense qu'il y a des trucs qui existent.
On peut balancer une date pour les jours à venir pour ce sujet-là.
Bah, je sais pas, je pense que c'est un truc important. C'est un truc important, il faut pas se retrouver. Plein de trucs à faire, enfin, je pense qu'il y a des choses à faire pour et pas dire ah bah c'est cool, ouais, patrimoine de l'UNESCO, il y a un branlé, enfin, moi j'ai des symboles, ça me fait chier qu'on ressemble à Coron, on est très 4 étoiles et voilà.
Mais j'en profitais de. Enfin, c'était un article, c'était quelques lignes.
Non, il y a plusieurs reportages, j'ai regardé, il y a
vraiment. C'était un lecteur qui avait écrit et il disait que C'était des locataires, les gens qui étaient là.
Bah oui, dans les corons, il n'y a aucun propriétaire dans les corons. Ça appartient à qui et ça ne se gère pas. Si, il y a des propriétaires, mais c'est des Anglais, je ne sais pas trop, ils ont acheté des corons.
Et donc, qui est-ce propriétaire?
C'est la Sushi Narva, Shida, je ne sais pas si c'est un propriétaire.
Ça fait
l'Avita,
SIA, Sushi Narva.
Mais moi perso, je trouve ça mais écœurant. Écœurant.
Avec la
ville
aussi, en fait, il y a plein de. Tu vois, c'est super compliqué, mais non, en fait, c'est logement des mines.
Ouais, c'est des logements des mines en fait, des blocs, et voilà. Les trois quarts en plus, c'est du pur neuf, parce que
Non, mais ils ont repeint juste vite fait pour la route, quoi. Juste, ils ont
repeint. Oui, parce qu'ils ont repeint, mais les locataires, c'est quoi?
C'est
oui, ou alors non, sur les axes aussi qui amènent au stade Boulard, parce que comme il y a pas mal de gens qui se
battent. Ah, c'est le coron en face quasiment du Louvre, quoi. Ben,
c'est
le
coron en face du Louvre. C'est le Paul Bert,
ouais.
Beaucoup.
Il y a ce patron du coron qui va être transformé en hôtel, ouais, 4 étoiles, mais il garde l'esprit coron.
Oui, bien sûr.
Il faudrait proposer de transformer tous les corons en 4 étoiles.
Ouais, mais que ce soit nous qui vivons,
pas
enfin,
nous, on a le même loyer, tout le
monde. Ben voilà. Enfin,
non, enfin, je sais pas.
On parle de culture. Je sais pas, aujourd'hui, c'est un truc de culture populaire, de machin, de trucs ouvriers, de. Moi, limite, je préfère qu'on les rase plutôt que ce soit des bourges qui vivent dedans et pas qu'ils aillent passer leur week-end maintenant. Hein. Je préfère qu'on les rase et qu'on fasse un agorespace ou un. Ou qu'on les réhabilite, quoi, tu vois. Mais non. De là à envoyer des bourges là-dedans pour dire tiens, ton hôtel 4 étoiles à 150 balles la nuit pour vivre dans
un hôtel. Non, mais il y a ça, il y a aussi la rénovation du stade. Hein.
Oui.
Oui, non, mais il y a les deux. Oui. Tu vois, mais tu prends la rénovation du stade.
Mais qu'est-ce qu'on fait?
Et bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis pour que si ça intéresse des gens, qu'on bosse là-dessus. Ce soir, on prend
ça. Il y a un truc à faire, quoi.
Ça, c'est le vrai. Après, le groupe.
Bah oui, justement, voilà, après on peut discuter pendant 3 heures sur Brutchou, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il mangeait des pâtes ou est-ce qu'il buvait de la bière sans alcool, là on est nombreux là ici, on est venus parce qu'on connaît le personnage, et je pense que c'est un truc à faire qui est un peu dans son
pas logique.
Et qui est assez écœurant en ce moment. Quoi.
Alors Jacques a un peu parlé de l'après Brutchou, etc. Cadet vient un petit peu de mettre les pieds dans le plan en disant on ne peut pas regarder ça comme un film, il y a des choses à faire actuellement. Et il y a Olivier qui a préparé un petit. Pour clore, mais après on peut encore faire un peu de débat, hein, qui a un petit peu préparé un petit exposé sur l'anarcho-syndicalisme.
Et
syndicalisme révolutionnaire. Voilà. Bon. Donc ça sera court, assurez-vous quelques heures.
Bon, ça va reprendre pas mal de choses qui ont déjà été dites, donc je vais faire assez bref. Puis je fais confiance aux camarades ici présents pour m'arrêter si je dis des conneries ou me corriger. Ouais, t'en diras plus que moi. Hein. Donc. Pour revenir vite fait sur ce qui a été dit sur l'histoire du syndicalisme, je ne vais pas reprendre du départ, mais pour bien comprendre les différences entre réformistes et courants réformistes et courants révolutionnaires, et repartir un petit peu sur le syndicalisme révolutionnaire, qui est celui de Brutchou, mais même si on peut aussi qualifier d'anarcho-syndicaliste, tu disais, Stéphane, que le terme d'anarcho-syndicalisme est apparu à partir de 1921 ou 22.
Oui, c'est à peu près 16 heures. Ouais. Oui. En fait, c'est justement dans la période un peu trouble là de passage de relais entre les libertaires et les communistes.
Ouais.
Et le terme a vraiment un usage stratégique, c'est effectivement c'est forgé par directement par l'agent de Moscou pour essayer de placer ses propres billes par rapport au cadre installé. Quoi.
C'est péjoratif. À la base, c'est péjoratif, oui, c'est utilisé par...
Effectivement, les déstabiliser. Quoi.
Voilà. Ça va être repris ensuite, mais de façon positive par les militants eux-mêmes, qui vont même se requalifier ensuite d'anarcho-syndicalistes, mais dans un contexte positif. Alors, pour revenir sur le...
Ouais, parce que, bon, effectivement, l'appellation, elle n'est pas...
elle n'est pas indue, puisque Brucho est anarchiste, donc par définition, ouais. C'est facile de dire que c'est un anarcho-syndicaliste, c'est pas faux. Il y a comme un usage stratégique, quoi, qui montre des trucs.
Pour revenir vite fait sur la charte d'Amiens, effectivement, au début, aux origines du syndicalisme français et donc de la CGT, le principe, c'est une séparation stricte entre les syndicats et les partis politiques, donc pas d'interférence entre le syndicat et le parti. Le syndicat ne peut pas être soumis ou en tout cas relais des décisions du parti, mais les militants à l'intérieur du syndicat choisissent eux-mêmes leur orientation, ce qui explique qu'on avait beaucoup de courants divergents à la CGT à l'époque de Brucho, comme on l'a dit tout à l'heure. On avait évidemment les militants de tradition libertaire, il y avait Monad qui avait été cité, on avait à la base aussi des militants comme Pouget et Pellouti, qui pareil étaient des militants anarchistes. Mais il y avait à côté de ça aussi des réformistes, il y avait les sociodémocrates, il y avait énormément de tendances différentes. Donc le problème, c'est qu'au fur et à mesure, la politisme de la CGT d'origine a amplifié les tensions à l'intérieur des différentes fédérations, puisqu'il y a eu des luttes d'influence qui ont pris une importance très grande après 17, après la révolution russe, la révolution bolchevique. Donc, à l'origine, le syndicalisme révolutionnaire, pour faire rapidement les grandes lignes, c'est d'abord des pratiques d'action directe, donc les salariés, les syndicalistes, les syndiqués œuvrent directement sur leur lieu de travail, sans passer par des mots d'ordre venus de direction ou bien par des décisions en escalier. C'est aussi les théories de Pouget, donc un des premiers aussi auteurs syndicalistes révolutionnaires. Donc la grève générale, enfin dans le but d'amener à la grève générale aussi des pratiques de sabotage, de la propagande. C'est aussi les principes de la toute première internationale, celle pendant laquelle vont naître les premières divergences entre les futurs marxistes et puis les bakouninistes, ceux qui vont être appelés les bakouninistes, donc les libertaires. Donc le grand principe, c'était l'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Ça, c'est un principe général qui sera de toute façon suivi par les différents courants, mais qui est à la base du syndicalisme révolutionnaire. Alors, dans le syndicalisme révolutionnaire, le syndicat suffit donc à lui-même. Il est indépendant des partis, mais aussi de l'État. Il n'a pas de lien avec l'État. C'est un outil qui permet d'amener la révolution, selon ces théoriciens comme Monad, par exemple. Alors je reviens vite fait sur, je ne vais pas mettre beaucoup de dates parce que ça va être chiant, mais en 1907, il y a eu le congrès anarchiste d'Amsterdam qui a réuni tous les mouvements du mouvement libertaire, le mouvement anarchiste, donc les individualistes qui étaient minoritaires, les syndicalistes révolutionnaires et aussi les antisyndicalistes. Il y a eu une petite bataille entre Monad et Malatesta, un autre théoricien anarchiste à cette époque, qui acceptait le syndicalisme, mais qui pensait que ce n'était pas un but en soi et que la révolution serait aussi amenée par autre chose que le syndicat. Les militants devaient s'investir aussi à côté dans une activité politique qui touchait toute la société, et pas uniquement le monde du travail, ou pas uniquement par l'intérieur du syndicat. Donc, à partir de là, les différences vont s'accentuer, et je reviens rapidement donc sur les années 20. On a des dissensions qui vont se créer entre la tentative de noyautage, les tentatives de subordination du syndicat au parti par les militants qui vont vouloir adhérer, que la CGT adhère, à l'époque de la CGTU, adhère à l'Internationale Rouge, Internationale Syndicaliste Rouge, qui était une émanation du Comintern, chapeauté par Moscou, enfin, on l'a dit tout à l'heure. Donc, il va y avoir des divergences et ça va amener ensuite, en 1922, au congrès de l'AIT, de Berlin. Alors l'AIT, ça reprend l'initiale de la première internationale, mais là, dans une optique anarcho-syndicaliste, c'est-à-dire que, prenant acte de ces différences et du fait que ça risque de saper de l'intérieur le syndicat, par scission successive, eh ben, les militants décident qu'il faut rompre avec ce dogme de l'apolitisme du syndicat, et que la pratique révolutionnaire et la pratique donc politique ne doit pas être tabou, que le syndicat, c'est aussi non seulement un outil, mais ça, c'est aussi, comment dire, il ne se suffit pas lui-même, mais il est lui-même un outil politique. Il n'a pas besoin des partis, mais il forge lui-même sa propre représentation de la société sur des principes de communisme libertaire. C'est ce qui va réunir l'ensemble de ses partisans dans la CGT-SR, dont on a parlé tout à l'heure, syndicaliste révolutionnaire, qui va être créé à partir de, si je ne me trompe pas, c'est à partir de 26. Alors pour faire simple, à partir de 26, la CGT-SR, qui est fondée en partie par Bénard, on l'a dit tout à l'heure, le cofondateur, Pierre Bénard, qui est devenu son secrétaire confédéral. La théorie, c'était donc effectivement d'être à la fois alors antinationaliste, ça va de soi, internationaliste, pour un fédéralisme. Le syndicat se positionne aussi pour un fédéralisme libertaire, mais aussi ce qui va devenir entre guillemets un anarcho-syndicalisme par la suite, donc une pratique politique intégrée au syndicat et non pas séparée du syndicat, déléguée à des partis et encore moins à des parlementaires, puisque c'est anti-parlementaire. Hein, la CGT-SR est anti-parlementaire et anti-étatique. Donc voilà, c'est. Alors je fais. Termine rapidement là-dessus. Ouais, voilà. Je cite rapidement pour la fin pour avoir une idée de l'esprit initial de la charte d'Amiens et de voir comment ça a évolué. Le premier paragraphe de la charte d'Amiens, c'est précisé: la CGT groupe en dehors de toute école politique tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat. Donc ça montre bien la cohabitation au sein de la première CGT jusqu'à effectivement les années 1920, de toutes tendances qui vont un peu se combattre intérieurement et comment dire, l'apolitisme ne va pas servir la cause du syndicat, mais va au contraire, dans ce cas-là, au lieu de réunir les militants, va les diviser. Donc d'où l'intérêt ensuite de créer un syndicalisme qui va devenir dit anarcho-syndicalisme, pour retrouver des bases communes, mais des bases politiques aussi communes, pour éviter justement ces tentatives de récupération ou bien de division interne qu'il y a pu y avoir après les années 20. Donc, ce qui viendra ensuite par la suite, après la guerre, puisque bon, on met de côté toute la partie, évidemment, la première guerre, mais ensuite, après la deuxième guerre mondiale, avant la deuxième guerre mondiale, pardon, je reviens rapidement quand même là-dessus, sur les syndicats étrangers, parce que je vais faire un petit encart vite fait sur la CNT espagnole, notamment qui va être un exemple d'anarcho-syndicalisme appliqué, qui va politiquement s'investir dans la vie de l'Espagne en 1936, au tout début de la guerre civile, qui va créer des communes libres, des communes autogérées, collectiviser les moyens de production. Tout ça, c'est le syndicat qui le prend en charge. Évidemment, créer aussi les milices antifascistes en 1936 avec les autres tendances antifascistes. Donc, il va vraiment s'investir politiquement et non plus se contenter de mettre en retrait avec un apolitisme de principe. Là, on est vraiment, c'est l'application des concepts anarcho-syndicalistes, même si, évidemment, il y a eu des ratés, mais ça, comme dans toute pratique, comme dans toute mise en pratique de théorie initiale. Mais, voilà, c'était pour faire un petit compte-rendu assez succinct. Donc l'anarcho-syndicalisme et le syndicalisme révolutionnaire. En fait, l'anarcho-syndicalisme, c'est une évolution naturelle, j'allais dire, du syndicalisme révolutionnaire. Après, à partir des années 20, et ensuite après dans l'entre-deux-guerres aussi, dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30, et ensuite après-guerre, qui va renaître en 46 avec Bénard, qui va refonder après la CGT-SR, la CNT française, sur des bases de la CGT-SR et des militants de la CNT, espagnole en exil en France, après la victoire de Franco, évidemment, et la guerre, et la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Je vais pas faire beaucoup plus long parce que ça va être un peu pénible. Je ne sais pas s'il y a des questions pour des
pas du tout.
Un peu plus factuelles. Bon,
alors là.
Si tu veux, Jacques, tu dois rajouter quelque chose.
Non, peut-être sur le nom de CNT, la CNT. On prend le nom de CNT en référence à la CNT espagnole. Hein. C'est bien ça. Parce que
française.
Ouais.
Qu'est-ce que je veux dire? Le gros problème, c'est le rapport entre les militants politiques, quels qu'ils soient, ou syndicaux, c'est la même chose, il ne faut pas être unique au bout, et les masses étrangères. Poser la question de ce rapport, par exemple, c'est poser la question de savoir est-ce que les militants, les organisations politiques font des propositions théoriques que les gens vont appliquer, ou est-ce que c'est le processus à l'inverse. C'est important de
dire.
Moi, je pense que, par exemple, la principale erreur du mouvement communiste international à partir de 1920, c'est d'avoir des principes dans la tête qu'ils croyaient vrais, universels, patati, patata. Bon, et en fait, ils ont essayé de les appliquer indépendamment des conditions concrètes dans lesquelles ils ont travaillé. Bon, et ça ne doit pas se faire, que ce soit le PC, que ce soit le PC, ou n'importe quoi, je veux dire. Hein. Le problème, c'est de voir, bon, ce qui a été dit, c'est de voir comment ça se passe dans un lieu où on milite, de voir comment ce que pensent les gens, ce qu'on peut faire pour les faire avancer, ce qu'eux ils peuvent prendre en main pour transformer la réalité. En fait, c'est tout ce processus qu'il faut analyser et qu'il faut comprendre. Je veux dire, et à mon avis, c'est sur quelque chose de comme ça qu'on se mettra, qu'on pourra se mettre d'accord, qu'on pourra avancer et qu'on pourra, bon, fusionner tout ce qu'il y a de positif, disons, dans l'histoire du mouvement ouvrier, qu'il soit syndical, politique, associatif, etc. etc. quoi.
Ce qu'il ne faut pas oublier, je pense, ce qu'il faut retenir de Brucciu, c'est qu'en plus d'être militant syndicaliste, anarcho-syndicaliste et tout ça, c'est que derrière, en fait, il développait effectivement, donc il y avait la maison du peuple, il y avait les maisons, en fait, des lieux un peu comme ici, qui étaient en fait des maisons syndicales, où là-dedans, il faisait aussi des conférences, en fait, sur le néo-mathusalisme, sur la contraception, qui n'était pas rien, en fait, en 1900, il a fait de la prison pour ça, il est attaqué pour pornographie, sur la libre pensée, il a attaqué les curés, enfin voilà, et aujourd'hui, les syndicats, ils nous proposent quoi? Ils nous proposent quoi? Une défense au sein de ton groupe. Alors oui, effectivement, ça peut donner de ta personne, il donnait de sa personne. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir de son esprit à lui. Moi, quand j'ai commencé à bosser sur lui, c'était vraiment pour ça, parce que j'ai commencé à découvrir le personnage, et je me suis dit, putain, mais en fait, c'est pas... Parce qu'en fait, Basli, tu regardes les actes syndicalistes de son époque. Bon, Basli, ok, c'est un député, tout ça, mais... Tu te dis, le gars, il n'est pas que dans ton boulot, il était là également pour dire, donner des conseils. Ou il ne t'obligeait pas, mais il donnait des conseils pour dire, refus des enfants. Bon, après, il était militant, mais pas pratiquant, comme je dis toujours, sur l'amour libre, il était militant, pas pratiquant. Il ne fallait pas toucher à Fernand, mais pareil, il n'avait pas trop voir ailleurs. Pareil, néo-mathusalisme, bon, il y a eu trois gosses, bon, les trois sont morts. Après, c'était l'époque. Mais ce qu'il faut retenir aussi de ça, c'est la place du syndicat, pas la place du syndicat dans nos vies. Tout le monde nous dit, il n'y a plus de syndicalisme. En France, je crois qu'on a des pays d'Europe où il y a moins de syndicats en France. Sauf que le seul truc qui te propose ton syndicat, c'est un syndicat de service. On le voit nous, la Sénat, les trois quarts des gens, ils viennent pourquoi? J'ai une embrouille et tout avec mon patron, machin, nanana. Après, quand t'apprends le truc, le mec il vient dans deux jours. Enfin, le truc il passe dans deux jours, je suis convoqué, j'ai le patron, je dis ton syndicat c'est un syndicat de service. Alors, qui a fait ça? Je pense que le rôle du syndicat est vraiment. Il ne doit pas entrer dans ta vie, en fait. Enfin, il ne doit pas. Mais il doit aussi, en fait, je ne vais pas dire t'éduquer, mais il est là. Je sais pas. C'est un truc à retenir ce que Brucciu ou Coudotte ont développé, hein, ce que nous, là, on parle de Brucciu. Mais voilà, et ce qu'on a perdu dans les syndicats en France aujourd'hui.
Je veux dire, il faut voir aussi que ça, c'est la stratégie de la bourgeoisie. C'est-à-dire que.
C'est pas la stratégie de la bourgeoisie. Tu regardes ton syndicat, il n'est pas dirigé par la bourgeoisie, voilà, je change de syndicat.
Je vais t'expliquer. Ouais. Pourquoi c'est la stratégie de la bourgeoisie? C'est que vous faites les syndicats, ils ont créé les comités d'établissement, ils ont créé toute une série de structures dans lesquelles des services étaient rendus, les vacances, les soins, les mutuelles, etc. Et c'est comme ça que... Et ça, il faut trouver maintenant le moyen. Ça ne va pas être facile pour revenir justement à ce que tu décris, et qui est parfaitement cohérent, et qui est parfaitement juste, et qui est un apport indiscutable.
Moi, je le vois, bon, je parlais pour mon syndicat, je suis à la CNT. on fait des projections, ils nous arrêtent de faire des trucs, des projections, tout ça. On fait des trucs sur le syndicalisme, tout ça, en entreprise. Mais à côté de ça, on va faire aussi des trucs sur l'antifascisme, on va faire des trucs sur l'éducation, on va faire des trucs sur le, enfin, sur plein de choses. Et j'ai l'impression que les syndicats, derrière, je vais pas dire qu'on est... Mais je pense que c'est le rôle du syndicat aussi, aujourd'hui, de faire tout ça, de faire tout ça.
Mais ce qu'il faut, enfin, quand on parle syndicat, on parle de confédération, mais le seul truc à faire, c'est que chaque travailleur, dans son entreprise en France, parce que c'est très facile, crée un syndicat, enfin, c'est jeter de préférence au CNT, ça part de là. Il faut que les travailleurs français, qu'on soit une entreprise de 2 salariés, ou de 150 salariés, ou de 1000 salariés, en France, créer un syndicat, c'est très facile de créer un syndicat. Il faut le créer dans la boîte, ça commence là, et c'est ce qu'on a oublié. Malheureusement, combien d'entreprises disposent d'un syndicat, mais si les travailleurs ne veulent pas le faire. Et moi j'ai milité à l'Union locale d'Arras, moi, ce que je préférais, c'est qu'on crée un syndicat dans l'entreprise, quand des gens venaient nous voir pour créer un syndicat dans la boîte. Et là, moi, je mettais toute mon énergie pour créer le syndicat et pour que ça marche.
Mais il a raison.
Mais si on parle, c'est la base, c'est les travailleurs qui vont se syndiquer dans l'entreprise.
Il ne faut pas faire que des syndicats de
l'entreprise. Non, mais après, on lutte.
Des chômeurs, des
non, c'est possible. Et si on a des syndicats partout, on a une force énorme. Mais si on a quelques syndicats éparpillés, puis qu'un gars nous dit une marge un peu dans la grève générale, il n'y a personne. Il faut que dans chaque boîte, comme Brouchou faisait, ces syndicats des mineurs, ils se battaient dans la mine. C'est ça le problème, si on est pas assez de syndicats en France, mais si on n'a pas assez de syndicats, non, parce que si les gens n'osent pas le faire, il y a la répression, on n'ose pas le faire, on n'a pas le temps.
Le contenu est important quand on se passe un syndicat, moi je suis d'accord avec lui. Le contenu,
c'est ça. Ah ouais, le contenu.
C'est-à-dire que.
Non, mais la CGT, c'est faire ça, la CGT.
Oui,
mais la CGT, on agit surtout sur une
moi, défense. Moi, je suis de l'intérieur, on sait faire, on sait éduquer, on sait faire plein de choses.
J'ai jamais vu un débat historique ou un débat sur antifascisme ou quoi, la CGT.
Bien sûr, hein.
J'ai pas envie d'attaquer la CGT.
Quand on veut créer un syndicat, si on dit quelque part dans une boîte, je m'excuse, quand on veut dire ce que tu veux, mais c'est très 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 difficile.
Parce que la CGT n'est pas représentative, c'est pour ça. Parce que la CNT n'est pas représentative,
vous dites. Eh ben ouais, pourquoi vous êtes représentative?
La CNT, elle y a encore pour l'instant.
Ah oui, pour l'instant. Et demain, si vous ne l'êtes plus, vous serez bien content d'avoir des contacts sociaux autour.
Bah, c'est ce que je dis, ouais, je
vais vous dire. Vous êtes au tribunal, mais c'est pas ça.
Je suis désolé, mais jusqu'à présent, il me semble que la CNT, à chaque fois qu'elle a voulu créer un syndicat dans une entreprise, on lui a foutu des bâtons dans les roues. Ça, je suis désolé de le dire.
Là, il faut rappeler quand même qu'il y a eu une nouvelle législation là, sur les syndicats, mais pour les personnes qui seraient dans des entreprises et qui voudraient créer un syndicat, eh ben, il ne faut pas se ruer là-dessus, hein, parce qu'il y a encore une répression patronale dingue pour les... Et donc il suffit de deux personnes, en sachant que l'employeur n'a pas à avoir l'identité de la deuxième personne. Hein. Donc il faut une personne qui se mouille. Voilà. Il peut y avoir 50 camarades dans l'entreprise. Ils n'ont pas besoin de dire on est syndiqué. C'est interne au syndicat. Le syndicat reçoit les cotisations, il n'a pas divulgué ça au patron. Et en fait, malheureusement, il y a quand même au moins une personne qui doit dire « Ah, c'est moi que je vais éliminer. » Donc, avec la nouvelle législation, en tout cas, il ne suffit pas de dire aux employés « Crée un syndicat, dites au patron, je suis syndiqué », parce que là, effectivement, boum, boum. Mais il suffit d'un nom. Il suffit d'un nom, donc il faut qu'il y ait un camarade qui se dévoue, qui sera représentant de... Il sera un petit peu protégé par la loi pendant, je crois que c'est 6 mois ou un an. Hein, voilà. Et les 50 adhérents, le patron ne connaît pas leur nom. Et le secrétaire, le représentant, le RSS, il n'a pas divulgué le nom patron. Il ne peut même pas dire tout est bien, on se syndique, la vie est belle et tout. Non, se syndiquer, c'est déclarer la guerre au patron. Et le patron le sait. Et du coup, voilà. Et en fait, au niveau de la nouvelle législation, il faut prouver au juge, hein, pour le patron, il faut prouver au juge qu'il y a deux adhérents.
Attends, c'est...
Ouais, c'est pour un petit peu dire, il faut quand même faire un petit peu attention.
C'est vachement grave ce que tu dis, je m'explique. Ouais. Il y a en plus une nouvelle législation qui est parue il y a 2-3 ans, qui impose aux syndicats de montrer leur comptabilité. Je ne me trompe pas là, hein. Je ne dis pas une connerie. Bon. Alors, à mon avis, à partir du moment quand on est syndicaliste, qu'on rentre dans la légalité, en quelque sorte, c'est-à-dire dans la loi bourgeoise, dans la loi faite par le patronat, en collaboration avec des dirigeants syndicaux qui sont vendus au patronat, bon, on sort quand même sacrément des clous. Hein. Je veux dire, on n'a pas, en aucune façon, on a d'autorisation à demander à personne quand on crée un syndicat. Hein. Moi, je ne sais pas, je prends un exemple concret. Je prends un exemple concret. En 1936, mon père travaillait à l'usine de Toulouse qu'ils appellent la TECOER, qui est devenue Sud Aviation, etc. C'est la deuxième usine qui a occupé, qui est partie en grève et qui a occupé. Bon. Le syndicat n'était pas autorisé. Le syndicat, il n'avait pas de truc, il n'avait pas d'autorisation nulle part, rien. Les gars, ils avaient fait le syndicat entre eux. Bon. Alors, mon père m'a toujours expliqué que le bureau syndical s'est réuni dans un champ, derrière un buisson. Ils ont discuté de l'organisation de la grève, ils ont voté la grève, ils sont revenus dans les travées et ils ont fait débrayer l'usine. C'est ça le syndicalisme. C'est aussi ça. Je veux dire que moi je me suis opposé, mais bon, ça a été en parole, quand les dirigeants syndicaux de la CGT, de la CNDP, enfin tous ces gens-là, ont accepté des lois qui enfermaient le syndicat dans des trucs où finalement il ne pouvait plus bouger, etc. C'est totalement normal. Et ça, je crois que c'est une bagarre à mener. Le syndicalisme, c'est une affaire de travailleurs et uniquement une affaire de travailleurs. Non. C'est pas une affaire de loi.
Ah oui, non, j'aime pas le mot travailleur chez le syndicalisme. Moi, je suis chômeur et je le revendique plus ou moins parce que...
Le chômeur, c'est un travailleur privé d'emploi, attention, il ne faut pas en sauter. Par chez la classe ouvrière.
Mais c'est comme je disais tout à l'heure, le syndicalisme, il n'a pas à être que dans les usines. Ce que je disais tout à l'heure, l'histoire avec les corons en face du Louvre, mais c'est au syndicat les premiers à bouger. Et j'ai pas envie que ce soit les partis politiques qui bougent en face. Vous savez pourquoi? Pour récupérer des trucs derrière la tour. C'est au syndicat de bouger. Ça, limite, j'aurais même aimé que ce soit aujourd'hui qu'on dise voilà, c'est organisé aujourd'hui par la CGT et par l'UL de Béthune. Qu'est-ce qu'on fait? La CNT Béthune et la CGT. Qu'est-ce qu'on fait? On est regroupé, il y a quoi? Il y a deux bureaux de syndicats.
Les
syndiqués de base, nous, on a aussi. Tu t'en fous que les syndiqués de base, tu crois que ton syndicat,
il a signé. Non, mais ici, t'as pas un responsable de CGT.
Tu t'en fous. Tu t'en fous, puisque tu veux. Bah oui, mais en même temps, c'est siglé CGT.
Mais moi, j'ai pas parlé au nom départemental de CGT parce que j'ai pas le pouvoir de le faire. Je m'en fous.
Bah, tu remettras juste des syndicalistes du bassin. Comme on avait pour l'affiche.
C'est ce qu'on fait,
disons. Bah oui, non, mais enfin voilà, mais c'est ça aussi.
Je pense qu'on se comprend pas bien.
Mais non, mais c'est dans l'urgence aussi, quoi. Tu vois, on va pas attendre 6 mois que les meufs, que les personnes se fassent virer. Et voilà. Et c'est ça le syndic. Enfin voilà, s'il faut attendre 3 réunions, 3 UL, 3 UR, et je sais pas trop combien de trucs avant de bouger, mais trop tard. Et c'est le problème du syndicalisme que tu as en ce moment.
Quand est-ce que le syndicat se crée et vit? C'est dans les luttes.
Bah oui, bah ouais.
C'est quoi?
Bah,
voilà. Dans les luttes, on a l'obligation de demander à personne. Hein.
C'est pas une lutte syndicale, hein, c'est une lutte de mémoire.
Pour revenir à la question de Jacques sur la postérité de Brutschou, bon, je crois qu'il a été, à travers les différentes discussions, il a été donné quelques réponses, c'est-à-dire il y a ceux qui ont maintenu l'idée de l'anarcho-syndicalisme, donc c'est ce que tu avais expliqué, la CGT-SR, la CNT. Ça a pu donner également des nouveaux syndicats comme le Sud, je pense, qui sont un peu l'héritier aussi de cette façon de penser. Ça a donné plus majoritairement, depuis une date antérieure, à la fois des syndicats CGT, où il y avait l'esprit anarcho-syndicaliste qui restait vivant, même si c'était la CGT communiste. Vite. Je pense par exemple à la CGT du bassin de la Sambre, où il y avait des restes d'anarcho-syndicalisme, bien que ce soit la CGT sous influence communiste, avec des conflits extrêmement violents, sans médiation syndicale et sans recours à la CGT nationale, de la Confédération. Il y a eu aussi des, puisqu'on a évoqué Force ouvrière, dans l'Ouest, il y avait un anarcho-syndicaliste, Alexandre Hébert, qui était dans la Confédération Force ouvrière, mais qui venait de l'anarcho-syndicalisme. Et je pense qu'il y a toujours une tendance à Force ouvrière, parce que je ne connais pas trop, dont il y a un représentant ici, je crois. Moi, je l'ai salué tout à l'heure. Donc, il y a eu quand même de l'anarcho-syndicalisme. Alors, le problème, c'est le. Si on pose la question, c'est est-ce que c'était un moment historique qui est terminé, ou est-ce qu'on peut poursuivre ce moment historique autrement que sous des influences, puisque ceux qui se réclament directement de l'anarcho-syndicalisme, bon, il faut bien reconnaître que c'est quand même assez minoritaire. Il y a aussi une autre postérité qui peut poser question aussi, je pense. Enfin, il faudrait peut-être y réfléchir. Je pense par exemple à Georges Dumoulin, qui a été un collaborationniste, et c'est pas une, donc il a participé à Vichy avec des fonctions officielles très, très importantes, où il a poursuivi le syndicalisme corporatiste de Vichy. Mais c'était pas une. Parce qu'on pourrait penser, ah ben, il a retourné sa veste, il a changé complètement. Non, c'est au nom des principes anarcho-syndicalistes, c'est-à-dire l'anti-parlementarisme, l'anti-républicanisme et l'anti-parti politique, qu'il a poursuivi cette idée-là, sous ce qu'il estimait être Vichy, et également le anti-militarisme, donc contre la guerre, par pacifisme. Donc il était parfaitement munichois et il a rejoint le maréchal Pétain. Et il n'est pas le seul. Il y a eu c'est pas des anarcho-syndicalistes, mais Sébastien Faure, qui était un anarchiste quand même assez connu. J'ai vu dans les documents que Brouchou avait écrit dans un de ses journaux, oui, qui lui aussi a collaboré au nom des idées libertaires, justement. L'anti-républicanisme, etc. Bon, faut y réfléchir aussi. Ou Lorullo, qui était un ami de Brouchou, qui a également collaboré et qui était un antisémite enragé. Donc, pas mal de questions.
Là, pour revenir sur Dumoulin, j'ai pas réussi à finir tout à l'heure, j'étais en train de quand même la seule personne à la mort de Brouchou, donc il meurt en 44, en pleine guerre, la seule personne qui écrira un article sur la mort en hommage à Brouchou sera Dumoulin, dans la, je crois que c'est l'atelier, qui est un truc collabo, un journal collabo. Et c'est un peu le pied-né qui leur a Brouchou à la fin de sa vie, c'est que le seul article sera dans un journal collabo, et en plus il sera enterré à l'église. Pourquoi ?
Ça, je sais pas. Parce que si, c'est pourquoi.
Stéphane, pourquoi
l'église ? Parce qu'il était ami avec une famille qui s'appelle Gisèle, c'est la famille Gisèle qui a pris en charge les mariages. En fait, Brouchou était effectivement, c'est ce que dit d'ailleurs Dumoulin à la fin de sa vie, il était non seulement très atteint par la maladie, mais en plus, effectivement, très pauvre, très en grande difficulté. Quoi. Et c'est vrai que pour la génération, justement, pour ceux qui sont de la CGT, il faut dire la réalité, c'est ça, c'est parmi la génération qui ont vraiment été les fondateurs de la CGT, c'est-à-dire Ruffel, Brouchou, etc., on les connaît pas parce que justement ils n'ont pas dévié ou ils n'ont pas eu des histoires un peu bizarres genre Dumoulin, quoi. Mais par contre, malheureusement, ils sont morts dans la misère. C'est la génération qui est morte dans la misère.
Ok, mais il y a pile 10 heures là, avant qu'il y ait encore une intervention. Sinon, là, je propose une chose passée. D'ailleurs, on se remercie. Je n'ai pas vu.
Donc, je veux dire, donc, là, on a quand même réussi à réunir dans une salle des militants de la CGT, des militants de Sud et des militants de la CNT. C'est le meilleur hommage qu'on pouvait rendre à Brutschou, c'est cette dynamique unitaire. Et ce qui fait le ciment de l'unité, c'est la lutte. Il n'y a rien que la lutte contre le capitalisme et l'État qui fait le ciment de l'unité. Il y a une proposition de lutte qui a été formulée par Cadet, relayée par Charlotte. On peut s'en saisir aujourd'hui pour voir ce qu'on peut en faire. Ça serait vraiment voilà, ça serait un hommage à Brutschou et ça serait vraiment un exemple concret de ce qu'on pourrait faire dans l'unité.
Et la preuve, c'est que c'est un endroit qui est effectivement aussi...
On remercie le LAG pour son accueil.
Donc, d'avoir accueilli ce